Spécial Esprit de famille avec Ken Bougoul et Modoun Diaye, son petit-fils.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Souvenez-vous de cette boîte à biscuits qu'on a ouverte il y a un an en écoutant, un peu caché derrière le poste, plusieurs conversations entre grand-mère et petite-fille, avec toujours cette question: comment se fait la transmission entre génération Baobab et génération 2.0 ? Aujourd'hui, Esprit de famille, c'est le nom que nous donnons à cette série que vous retrouverez au gré de nos tricotages. Donc aujourd'hui, on pousse les meubles et on fait de la place, mais alors toute la place à un tandem beau comme une visite improvisée, et je vous jure que c'est le cas. D'un côté, on a Modoun Diaye, 24 ans, petit-fils très village global. Il est né au Sénégal, a grandi en Gambie et sillonné le monde. Et puis de l'autre, on a une mamie romancière qu'on a croquée en sol majeur récemment, grand prix littéraire d'Afrique noire 1999 pour sa trilogie Le Baobab fou, Cendre et braise et Riwan, j'ai nommé Ken Bougoul. Surnom terrible qui en Wolof veut dire « personne n'en veut ». Vous imaginez un peu bâtir sa vie sur ce surnom qui exclut ? Ça en dit long déjà sur cette très grande personne éprise de liberté, d'anticonformisme et d'amour pour son petit-fils. Mais chut, clap première sur leur mot premier.
Je peux très très bien me souvenir de la première fois que je t'ai vue. Et donc tu devais avoir 7 à 8 mois. Ce qui m'avait frappé la première fois que je t'ai vue, j'étais venue en vacances au Sénégal, c'était tes mains. Et tu avais des mains d'une finesse extraordinaire. Mais vraiment, un beau, joli petit garçon qui avait un peu cette fragilité de ta mère et une insouciance, parce que chez ton père, vous étiez bien, quoi. Donc il y avait une légèreté et en même temps une fragilité. Et ce sont tes mains qui m'ont marqué à jamais.
Je ne m'attendais pas à ça parce que je ne me rappelle pas. J'avais 8 mois,
oui, c'est ça.
Donc c'est sûr. Et moi, après, je dirais qu'il y a eu d'autres fois où je t'ai vu.
Oui.
Et c'est souvent à la maison, à la Padoie, aux HLM. J'ai le souvenir, une fois, on regardait Questions pour un champion, je pense, ensemble. Et je répondais à beaucoup de questions.
Tout à fait.
Et tu me prenais un peu de haut à commencer à me parler de plein de choses. On discutait. On avait beaucoup de conversations. C'est des choses qui m'ont manqué pendant cette longue séparation. Parce que mine de rien, je pense que ça fait 14 ans qu'on ne s'est pas vu. Et là, de se revoir à Paris, c'est extraordinaire pour moi. Je me sens bien.
Ces deux-là se mangent du regard, une éternité qu'ils ne s'étaient pas retrouvés. Et voilà qu'au hasard d'un ensole majeur à Paris, avec Ken Bougoul, le petit-fils Modou prend son train de Bordeaux pour rejoindre dans nos studios cette grand-mère, improbable hein, dans une famille sénégalaise, personnalité iconoclaste, née en 1947 dans un petit village sénégalais et qui aura vécu plusieurs révolutions coperniciennes. Au menu de leur échange, le féminisme, le patriarcat, la colonisation, la parenté africaine et la langue.
On parle en wolof et en français.
Oui.
Mais plus on a plus parlé en français, mais quand ça devient profond, on parle en wolof.
Oui. C'est-à-dire que peut-être que ce besoin de te parler de choses beaucoup plus profondes, ce n'est pas seulement par rapport à l'intelligence ou ta curiosité, c'est parce que j'avais un problème de communication aussi avec ma famille. Parce que je ne pouvais pas parler avec ta mère de certaines choses, je ne pouvais pas parler de ta grand-mère de certaines choses, je ne pouvais pas parler de ma grande sœur de certaines choses, je ne pouvais pas parler avec ma mère parce qu'on n'avait pas de communication.
Pas...
Donc j'avais aussi un problème de...
D'écoute.
D'abord, d'écoute j'en avais avec d'autres gens, mais pas des gens qui me sont proches, pas des gens de ma famille. Dans la transmission... parce que c'est une question de génération. À un certain âge, on ne doit pas parler directement à ses petits-enfants ou ses arrière-petits-enfants. Il faut utiliser un autre langage qu'on ne retrouvait que dans le conte.
Les
contes, c'est-à-dire que si je te parle de choses profondes, c'est que je me sens investi dedans, ou bien j'ai vécu ça. Et par pudeur, on se dit, mais une grand-mère... qui parle à son petit-fils de son corps ou de son histoire ou de ce qu'elle a vécu, c'est scandaleux. Donc, il fallait passer par des contes, des légendes, des anecdotes où on m'a dit, j'ai appris, mais pas directement.
C'est les choses que tu me dis.
Voilà, parce que une personne âgée ne parle pas ainsi à un jeune enfant et encore moins à son petit-fils.
Ouais. Il y avait un temps où on parlait de manière tout à fait anodine, c'est les bonnes lipones. Mm-hmm. Tu me disais que Gorbi am Nanyari Djabar, c'est-à-dire qu'on parlait de la polygamie. Et c'est un conte, mais c'est un conte que tu as relié ça avec le fait que tu t'es marié avec Mamkhas. Donc, il y avait des anecdotes. Tu disais que s'il ne te laissait pas partir, tu ne partais pas parce que voilà, c'était la personne qui était ce socle et qu'il t'a aussi permis, je pense, de revenir à toi-même. Mm-hmm. Parce que Nidhidanila Dantambedov, les gens disaient que tu étais folle. Et à travers ce que tu m'as raconté, tu as pu exprimer quelque chose que moi, quand j'étais petit, je ne comprenais pas forcément. Mais qu'après, j'ai su comprendre au fil des années par rapport à cette vision spirituelle. Et ça m'a aussi remis dans le cadre même du mouridisme, qui est un courant de pensée que je pense qu'on partage, un courant religieux que tu connais aussi.
Je te parlais de ma vie, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que je n'ai pas pu, avec toi, utiliser le conte comme mode de transmission ou d'éducation. Ou, pourquoi ? De moins en moins, on utilise les contes. Parce que d'abord, tu étais dans des écoles très occidentalisées. Tu étais déjà tout petit, à 3 ans, 4 ans, toi, tu parlais que français. L'habitat n'était même plus adapté au conte. Peut-être que tu étais venu me voir dans mon village. On a la natte, mais chez toi, c'était les salons en cuir. C'était le... Quand moi, je venais chez vous, j'étais la petite villageoise, hein, parce que vous viviez dans du feutré. Et je te trouvais dans ce gros canapé en cuir avec un écran. Je n'ai jamais vu un tel écran de toute ma vie. C'est pour ça que je discutais avec toi. Je te parlais de ma vie en utilisant des méthodes pour que ça te soit accessible, parce que tu étais petit. Mais en même temps, je savais que tu cherchais où se trouvait tel pays, tu me posais des questions. Est-ce que j'ai été au musée du Louvre, alors que tu n'as jamais quitté ton quartier, encore moins le Sénégal? Mais tu me parlais de Louvre, tu me parlais de savants, de
Luxor, de
Luxor, d'Égypte. Ah oui, et tu avais déjà un univers peuplé. Bon, moi aussi, je voulais te parler peut-être d'univers que je connaissais, que je maîtrisais, qui était là où j'étais né, là où j'ai grandi.
Je me rappelle de beaucoup de choses, parce que tu m'as parlé de Nguingineo.
Oui, je t'ai parlé de Malemodar. Oui, ça, c'est mes villages. Oui, mais par exemple, toi, tu n'es jamais allé à Malemodar où je suis né.
C'est vrai.
Jamais.
C'est vrai.
Et tu n'es jamais même allé à Nguingineo.
Nguingineo non plus.
Jamais. Et tu n'as jamais quitté Dakar et peut-être... Tu es né à Touba, mais tu n'as jamais quitté Dakar. Tu as quitté Dakar, tu es parti en Gambie, tu es parti à Dubaï, en Afrique du Sud, tu as fait le tour du monde. Et tu n'es jamais allé là où ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, qui est ma sœur, même père, même mère, là où nous sommes nés, je t'ai dit qu'il n'y avait pas de dispensaire, nous sommes nés sur la natte, par terre. Et tu n'es jamais allé là-bas.
Bon, je le regrette aussi un peu, mais je pense que je vais essayer de tout faire. Je vais même pas essayer.
Ouais, mais tu ne peux pas avoir d'histoire
sans partir.
Sans village.
C'est la base.
Tu viens d'où? Mais de Dakar. Mais Dakar.
Mais c'est quand tout le monde. J'ai été à Touba.
Dakar, c'est tout le monde. Il y a des Blancs, il y a des Chinois, il y a des Wolofs, il y a des Serres, des Saracolais, des Biwariens. Dakar, c'est pour personne. Si tu dis, je suis né à Dakar, je suis de Dakar, tu es dans l'anonymat le plus total. Mais si tu dis, ma grand-mère, Amin Tambay, ma soeur, même père, même mère, Aksama Maretu, sont nés à Malem Odar, Demna Bam Malem Odar, Demna Nguingineo, Khamna Fumo Djoge, je sais d'où je viens. Je connais mon histoire. Parce que si tu vois là où je suis né et me rencontrer à Paris ou à Dakar, tu vas dire, Ma grand-mère, elle est née dans le bush là. Comment de son village là, avec les milliers de baobabs dans cet environnement presque désert, comment de là-bas elle a fait pour écrire des livres, pour devenir ce qu'elle est et tout, ça peut être stimulant pour toi. Et puis se dire que beaucoup de choses sont possibles. I wrote a letter, I wrote a letter, I wrote a letter to the Lord, begging him to send the chords that would make you stay by my side. He sent an A minor groove, just as you like it, something smooth that doesn't hurt at all. Here comes the major in all its glory. Forgive the failure, says I'm sorry. Ask if he could send the lines, but he said no. I didn't ask why. I took a pen and let it down. I wrote a love song, make it yours. Take all the pieces. There's nothing wrong. My prayers. Cause every inch of my skin still holds the perfume of my sin. I try to take it off so many times. I know this is my very last chance. No mercy, no kindness, no defense. I hope it comes naturally. Comes a major in all its glory. Forgive the failure, says I'm sorry. Ask if he could send the lines, but he said no. I didn't ask why. I took a pen and let it down. I wrote a love song, make it yours. They call the pieces. There's nothing wrong.
Pour un sol majeur, un peu de Fada Freddy, Letter to the Lord, un peu d'esprit de famille avec ce choix de Modou Ndiaye, la génération 2.0, face à son aïeul Ken Bougoul, passé de la terre des baobabs au monde des blancs. On la disait folle hein, au village et dans la famille pour avoir simplement été dans une infinie quête de soi. À cette époque, mon souci n'était pas l'homme et le mariage. Le jeune homme du village m'aurait étouffé les élans et plus tard la conscience. Mais l'être qu'il m'avait fait connaître faisait partie de la génération des premiers intellectuels noirs, les sages, qui tenaient au respect des valeurs traditionnelles, mais comprenaient les pulsions de la nouvelle génération de noirs formés à la culture occidentale, qui se cherchait un nouveau visage. Voilà ce que la petite villageoise de la famille écrit page 204 dans Le Baobab fou.
Moi, je pense que même déjà, on a des parcours similaires. On est en train de vivre la vie de l'un et de l'autre, mais je ne sais pas, en décalé, une sorte de tourbillon. Mmh. Parce que même de se dire qu'on se revoit là à Paris, et quand toi aussi tu as quitté le Sénégal, après aussi quelques lectures que j'ai eu à faire de ton livre, Le Baobab fou, je m'identifie beaucoup à toi et je m'identifie beaucoup aussi un peu à cette société occidentale que certes, je n'ai pas vécu ici un temps qui me permet de dire que oui, je suis occidentalisé, mais de par mon éducation de base, j'ai effectivement eu la chance de pouvoir connaître les codes de culture, de pouvoir m'adapter. Maintenant, mon identité, je ne saurais la définir, en fait. Je me vois comme un citoyen du monde. Mais je peux toujours dire que j'ai mes origines. Donc, la plupart du temps, je me présente comme un Sénégambien, sachant que j'ai habité en Gambie et au Sénégal. Mais aussi derrière, je recherche toujours mon identité, je pense. Je suis citoyen du monde, certes, mais je suis dans une quête. Et j'aimerais vraiment que tu me parles aussi de la manière dont tu vois cette chose pour que je puisse mieux comprendre.
Oui, moi, dans mon parcours, quand je suis né pendant la période coloniale, je suis allé à l'école coloniale française. J'étais une indigène, une villageoise, une paysanne. Je n'avais pas quitté mon village. Mais ce qui m'a permis d'avancer, parce que je frappais à toutes les portes, j'étais très curieuse, je voulais savoir ce qui se passait, bien que la France restait ma référence à cause de l'école, mais en même temps, je m'intéressais à ce qui se passait dans d'autres pays du monde. Et donc, je n'ai pas construit d'identité pendant cette période coloniale parce que j'étais un peu en contrebalance d'un côté comme de l'autre. Alors que quand je suis arrivée à Dakar, Yandé, ma copine de l'université, elle qui venait de Saint-Louis, tout de suite, elle a commencé à m'appeler Guine Faretch. Guine Faretch, c'est vraiment la villageoise. Hein? Elle, parce qu'elle était de Saint-Louis, elle ne connaît que Saint-Louis et Dakar. Donc, chaque fois, je lui disais, Yandé, mais toi, tu n'existes pas. Il me dit, comment je n'existe pas? Mais je dis, t'as pas de village. Alors, j'essaie de me venger. Parce qu'elle, de Saint-Louis, citoyenne française, ses parents travaillant à Dakar, elle n'a vécu qu'à Dakar. Elle ne connaît que Dakar et Saint-Louis. Peut-être le jour où je vais mourir, parce qu'elle est en vie, qu'on va m'enterrer dans mon village, j'espère qu'elle va pour la première fois de sa vie se déplacer, aller dans mon village. Et puis elle a eu un mari villageois aussi. Et chaque fois, elle me dit, tu vois, vous les villageois, vous n'avez pas les manières. J'ai dit, mais on a l'argent. Parce que son mari était assez aisé. Je dis, ah, en tout cas, on a l'argent. Donc, je n'étais pas dans la construction d'identité, mais de référence par rapport à l'Occident. Le Nord référentiel, je le dis toujours dans mes livres à l'époque, c'était une référence.
Il y a aussi une question que je voudrais te poser, Mam, c'est quand tu étais petite, genre à l'école primaire, parce que tu as eu la chance d'avoir vécu en période coloniale, comment tu te sentais et comment cela t'a défini aujourd'hui?
Oui, c'est tout, parce que j'ai quand même vécu avec la période coloniale pendant au moins 13 ans quand même. Hein. Mais dans la petite enfance, 6 ans, 7 ans, peut-être que je ne me rendais pas compte. Pour moi, aller à l'école, d'abord ça me permettait de sortir de la concession familiale, enfin, où vivait mon père qui était vieux. Je suis allée voir d'autres enfants. Et ce qu'on apprenait, pour moi, c'était comme une découverte. Peut-être que c'est vers 9 ans, 10 ans, qu'on avait des programmes beaucoup plus élaborés, qu'on a commencé à nous parler des ancêtres, des Gaulois, des Blancs aux yeux bleus, etc. Ça ne me dérangeait pas à l'époque parce que je n'avais pas d'histoire familiale. Donc, j'ai récupéré l'histoire coloniale, enfin l'histoire des Français, des Européens, des Blancs, quoi. À la place, mais tout en sachant pertinemment, comme je le dis toujours, moi, ce n'est pas des Blancs qui m'ont enseigné, ce sont des Sénégalais, donc qui avaient la même peau que moi et qui me chantaient la Marseillaise, parce qu'on faisait le 14 juillet, on avait une robe bleue, une ceinture rouge, des chaussures blanches, avec une tulle gonflante.
Et là, vous étiez tous tricolores.
Ah oui, ah non, 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 et puis on faisait des... la marche, pour, etc. Ça, j'ai fait, jusqu'aux indépendances, j'ai fait le 14 juillet. J'ai récité mes ancêtres, les Gaulois. Je connaissais...
Mes ancêtres, les Gaulois, qu'est-ce que c'est?
Oui, c'était dans le programme scolaire français. C'est-à-dire que pendant la période coloniale, ces livres des Français en France, on les a amenés en Afrique. C'est après que Mamadou et Binetta sont venus dans le programme scolaire. Donc, les livres qu'on utilisait avant Mamadou et Binetta, c'était l'histoire de France. Donc, ils parlaient de la Gaule, ils parlaient
de
des Gaules,
de,
les Gaulois, etc. Donc, on maîtrisait tout ça. Tu as vu, les premiers Mamadou et Binetta,
c'était des caricatures.
C'était réducteur. Parce que les personnages, les enfants qui étaient dans cet ouvrage, c'est Toto. Toto, il fait que des bêtises. Toto a bu du dolo. Toto a fumé la pipe de papa. Toto a la diarrhée. Pâté, n'en parlons pas. Et puis, ils se battent. Et puis, c'est à l'encre de Chine. Ça, c'est un livre à chercher, à conserver. tellement c'était réducteur. C'est-à-dire qu'on nous dit, vous n'avez plus les programmes des Français, on ne vous parle plus de vos ancêtres gaulois, mais on nous apporte du matériel didactique réducteur qui faisait que quand tu lisais ton Mamadou et Binetta, tu dis, moi, je n'ai pas envie d'être comme ces personnages, si les Noirs sont comme ça.
Je vois même qu'à mon époque, quand j'étais en études, que cet effet réducteur, il s'est traduit. Parce qu'après les indépendances, on a vu qu'au Sénégal, au bac, que ce soit le bac, le BFM, ça n'allait plus. Nous, déjà, au Sénégal, on n'a que le programme français de 1960 jusqu'à présent. Mmh. Il n'a pas été actualisé. C'est des mémorisations à pas finir. Les gens n'arrivent pas à s'exprimer au bac comme il faut. Et les options sont très restreintes et réduites. Donc, on est toujours dans cet effet de Dumunier parce que...
De la colonisation. Voilà, de la colonisation. Ça continue toujours, mais ça, ce n'est pas la faute aux colons. Il y a des livres qui étaient disponibles aux indépendances. Nos dirigeants, nous ne nous sommes pas, peut-être même nous-mêmes, nous ne nous sommes pas investis tout de suite pour élaborer un matériel didactique adapté à notre contexte, incluant l'histoire de l'Afrique, plus aussi même l'histoire de France, parce qu'il faut être cultivé. Hein.
Ça se passe en sol majeur, entre une grand-mère et son petit-fils. Moudou, à 24 ans, met du paysage dans les yeux. Après la Malaisie, Dubaï, l'Afrique du Sud, voilà qu'il se pose en France en 2020, qu'il travaille dans Club Diaspora Africaine pour aider les jeunes Africains à l'insertion professionnelle. Et puis, à tout moment, il dit qu'il peut trouver sa grand-mère sur Wikipédia. Il adore ça. Ken Bougoul, marié tout hein, dans la vie. Une romancière qui sait comment attacher son pagne. D'abord en rupture avec le Sénégal, puis en immersion dans la France de mai 68, des hippies et des drogues. Et puis enfin en symbiose amoureuse avec un maître coranique. Elle dit souvent « Chez moi m'a manqué toute ma vie ». Esprit de famille pour un sol majeur, suite.
La question de mon identité, c'est quand je suis arrivée en Belgique pour la première fois que j'ai été confrontée à cette question identitaire. Non seulement au début, j'étais bien accueillie, comme si je venais du Congo, parce que la guerre Congo venait de terminer. Peut-être qu'on m'a pris pour une Congolaise, je crois même. On disait que j'étais belle et tout. Mais après, on a commencé à me traiter autrement. Chez vous. Vous chez vous. Vous chez vous. Et je t'assure, Serigne Modou, comment le sérieux de la question identitaire, je l'ai eu à Bruxelles. Il y avait un immeuble dont le rez-de-chaussée, c'était un miroir. Et je passais, et puis il m'a semblé que j'ai vu quelqu'un. Hein. Enfin, mais je me suis retournée, mais ce quelqu'un, c'était moi. Oh, j'ai dit quoi? Parce qu'il y avait tellement de blancs qui passaient derrière moi, et tout d'un coup, je me suis trouvée petite noire, là, au milieu de tous ces blancs. Et je me suis touchée la peau, j'ai dit, waouh, qui c'est moi? Oh mon Dieu. Oh, mais Mandeke, je suis noire. Et c'est là, parce que c'était tragique. Parce qu'après, quand je suis rentrée, comme à l'époque avec nos amis hippies, un peu de marijuana, etc., un peu de thé vert de Chine dans une chemise indienne, je me suis dit, la question déjà a été me turlupiner. J'ai dit, cette peau, il faut que je l'arrache. Pour te dire au point où j'en étais.
C'est quelque chose que je ne savais pas.
Je te jure, bon Dieu, j'ai dit je vais l'arracher. Parce que c'est à cause de cette couleur que je suis rejetée, que je fais pas chez vous autres, les autres. Donc je suis un autre. Tout d'un coup, j'ai dit c'est la couleur de cette peau, dans une crise identitaire. Hein.
Ouais.
Et c'est un miroir à Bruxelles. Mais il a fallu que je retourne au Sénégal. J'ai fait 6 mois là-bas où je me suis lâchée dans la culture sénégalaise. Et là, j'ai bu l'Afrique, j'ai bu les odeurs, les sensations, j'ai bu la chaleur, j'ai bu les gens, j'ai bu... Et je suis revenue encore en Occident. Donc, mais comme je dis, la question identitaire, Parfois, les gens pensent que c'est par rapport à la couleur de la peau. Dédette, l'identité, ce n'est pas une couleur. L'identité n'a pas de couleur. C'est comment l'individu se définit dans un contexte aussi bien historique que contemporain, que social, qu'économique, que politique.
Ouais.
Et tu fabriques. Tu ne construis pas, tu fabriques avec des briques. Des briques, hein. Pas avec des mots. Et tu es là, solide, et tu existes en tant que... Parce qu'il a fallu que je passe de la peau à la condition de femme pour me débarrasser. Je dis, je vais me concentrer ma vie à revendiquer une peau que, dont je n'ai pas besoin de présenter. Tout le monde voit ça. Je vais passer mon temps là. Oui, les Noirs, nous les Noirs, nous les Noirs. Non. Nous les femmes. Non. J'impose ça. Mais en disant que c'est des choses que j'ai sous les épaules. Mm. En cas de qu'est-ce qu'il y a, comme on dit, Abidjan, je sors. Tiens. Mais t'avais gardé ça où? Je dis là.
Je te dirais, mam, tu m'as beaucoup appris sur la cause de la femme. J'ai été élevé par des femmes. Donc, dans ma vie, il y a trois femmes, c'est-à-dire ma mère, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère.
Absolument.
Donc, je dirais que je suis féministe, oui. Et aussi, d'une autre manière, c'est des choses que j'ai apprises en lisant un peu tes livres, mais en te suivant de très près. Tu as toujours parlé de ma curiosité. Moi, j'étais sur Wikipédia, tu vois. Et je dis cette phrase... Je le dis souvent en anglais, « My grandmom is the female African literary prize, 1986. » Avec l'accent et tout. Et,
oh là là, oh,
pour vous dire, ah, regardez qui j'ai en face de moi. Africa,
d'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Konjamu Africa, mon laïnyan. Manejamu Africa, moi sunyu natange. Africa. Ici ou ailleurs, la paix crie du bonheur. Même si le ciel pleurait, luttons pour nos frères. Konjamu Africa, mom lay ñaan. Manejamu Africa, moy suñu natange.
Le Sénégal coule dans ce cri Jammu Africa d'Ismaël Lo. Le Sénégal, mais aussi le village mondial, couve à mots couverts dans les souvenirs et les différents canapés de la vie croisés par notre tandem en pleine transmission. Ken Bougoul, qui laisse la romancière au vestiaire, C'est en aïeul qu'elle écoute Maudou, son petit-fils, qu'elle ne voit pas assez souvent, mais à qui elle a laissé les clés de certaines valeurs.
Tu es une femme comme ma grand-mère et ma mère. Mmh. C'est une femme qui n'a pas besoin d'avoir un homme pour éduquer un homme. Parce que je me souviens de cette phrase. J'aime bien mon père, mais je sais qu'il y a eu ce challenge aussi. C'est le regard de notre société qui dit que gor jigen du koyar. C'est-à-dire qu'un homme ne peut pas être éduqué par une femme. Et ça, j'en suis fier parce que tu as réussi à inculquer ces valeurs à la génération qui est passée après. Et c'est cette même génération qui m'éduque. Et c'est toi qui m'as transmis aussi cette capacité à me sentir bien dans ma peau, à me dire que je n'ai pas forcément besoin d'avoir une image paternelle pour être la personne que je suis. Et ça m'a permis aussi d'exceller. Et étant tout petit, je t'ai vu de loin en train d'exceller. Quand tu es devenu Légion d'honneur des arts et des lettres, si je ne me trompe pas, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et j'en suis fier aussi.
Oui, mais je crois que ça vient de ma grand-mère maternelle qui ne m'aimait pas, mais, enfin, qui m'aimait peut-être, hein, mais qui ne voulait pas que j'aille à l'école française. Et parce qu'elle a quitté le Wallo vers la fin du 19e siècle. Le Wallo, c'est la région
du fleuve Sénégal.
À partir de Saint-Louis. Toute cette région, ça s'appelle le Wallo. Donc, elle a quitté le Wallo avec une de ses sœurs. Elles étaient divorcées, séparées, seules. À l'époque, il n'y avait pas de moyens de transport. Elles ont quitté le Wallo. Elles sont arrivées jusqu'à Djourbel. Le train pouvait arriver jusqu'à Djourbel, je crois, pendant la période coloniale. Ça, c'est, je te parle du 19e, fin du 19e siècle. Et ma grand-mère avait deux enfants, sa sœur n'en avait pas. Elles sont montées à cheval pour faire plus de 150 km pour arriver à Kaolack, où on disait que c'était le bassin arachidier, qu'il y avait du travail, qu'il y avait le porc, il y avait les colons, il y avait l'arachide, l'agriculture marchait bien, et il y a du poisson, la Gambie n'est pas loin. C'était un marché potentiel. Mais elles ont fait presque plus de 500 à 600 kilomètres pour venir seules. Et quand elles sont venues, elles n'ont pas cherché de mari. Hein. Elles ont commencé à travailler. Donc toutes les maisons que nous avons à Kaolack, à Guingenev,
c'est les femmes de la maison.
C'est ma grand-mère et sa sœur qui ont toute leur vie, jusqu'à leur mort, elles ne se sont plus jamais remariées. Et ma grand-mère, ma mère, jusqu'à toute notre génération. Parce que ta grand-mère, elles ont vécu pratiquement seules. Elles n'étaient pas mariées, elles étaient divorcées, elles ont travaillé, elles ont trimé, elles ont voulu que tu fasses de bonnes études.
De très bonnes études d'ailleurs, oui. Elles ont beaucoup sacrifié.
Quand tu étais à l'école primaire, elles ont préféré prendre leur argent, te payer les meilleures écoles pour deux femmes seules. Et jusqu'à aujourd'hui, elles se battent. Donc,
au jour le jour.
Ça, ça n'a pas besoin de discours. Mais ça, c'est un héritage.
C'est un héritage. Et elle a même parlé
jusqu'à
de ses
arrière-grand-mère. C'est la lignée des femmes qui a inspiré les nouvelles générations de femmes dans ma famille.
En sol majeur spécial esprit de famille, et puisqu'on est de plein pied en famille, il faut, je crois, évoquer cette convention parentale, alors classique en Afrique et étrange pour l'Occident. C'est lorsque la grand-mère parle de son petit-fils comme de son petit mari. Attention, palabre amoureuse à l'horizon.
Bon, ça, c'est dès que t'es tout petit, on se dit que ta grand-mère, c'est ta femme. Depuis tout petit, il y avait Mam Aminta, Soudan Nyo, quand elle venait. Il y avait du mouraké. Le mouraké,
c'est délicieux.
C'est délicieux, c'est excellent. C'est un peu comme du pain perdu, je pense.
Non, tu peux le faire avec du pain perdu.
Mais le vrai
mouraké, ça se fait avec du mil.
Et le meilleur mouraké, c'est celui de Mam Aminta.
Mil, pâte d'arachide.
Je m'en souviens toujours.
Et du pain de sucre, le sucre qui est en pain, qu'on casse. Comme ça, avec un verre de thé.
Mm-hmm. C'est du sucre concassé un
ça,
peu.
C'est ça le mouraké. Maintenant, comme tu dis que tu es de Dakar, voilà, maintenant c'est pain perdu. Tu vois comment maintenant tu n'es même plus dans tes origines ni dans ton... Pain perdu. Tu dis ça à Malemoda, dans mon village là.
Je vais me faire taper.
D'où vient-il ce garçon? Et maintenant, donc oui, tu parlais de
c'est donc je me rappelle du mouraké. Je parlais d'Aminta, ta sœur. Je pense que c'est le concept. Moi, peut-être, je ne l'ai pas vu comme petite femme, mais comme on dit, c'est une manière que la grand-mère devienne quelque chose de spécial aussi. Ça m'a marqué. Et toi, quand tu venais, c'était encore beaucoup plus de cadeaux. C'était Noël avant l'heure, en fait. Et c'était beau.
Ça dit que dès que le petit-fils naît, si c'est un garçon, la grand-mère dit « c'est mon mari ». Et si c'est une fille, le grand-père dit « c'est ma femme ». C'est comme si le vieux couple papa-maman, avec la naissance des petits-enfants, se transpose sur une autre génération. Parce que tu peux avoir des enfants, ils sont en vie, mais tant qu'ils n'ont pas d'enfants eux-mêmes, tu as l'impression que ta vie s'arrête à tes enfants. Et dès qu'ils ont des enfants, tu te dis il y a une
autre vie.
La vie continue.
Continue.
Il y a un prolongement de notre vie à travers les petits-enfants, d'une part. Et d'autre part, la naissance d'un garçon, d'un petit garçon ou d'une petite fille, aussi bien d'abord chez les parents, avant même les grands-parents, quand une femme met au monde un garçon, autant en Afrique, au Sénégal particulièrement, on aime un fils aîné pour porter le nom.
Oui.
Mais autant, il y a une autre frustration chez le papa que quand un enfant naît garçon, il va être tellement lié, proche de sa mère, que le père va se dire « c'est un rival ». Et quand maintenant c'est une petite fille, ça c'est les complexes d'Œdipe et d'Électre, etc. Et ça se transmet jusqu'aux grands-parents. Et c'est comme chacun récupère. Si la grand-mère dit, tu es mon petit-fils, je t'aime. Tu as vu, on m'a offert ces chaussures à Neuchâtel, ça fait 3 ans où je n'ai jamais porté. J'ai porté ça pour toi. Aujourd'hui, quand je me lavais sous la douche, je me frottais. Je dis, Cérine Maudou, c'est mon mari. Je te jure, je ne me suis jamais autant frottée de ma vie. Je me suis arrangée aujourd'hui. Je crois même que j'avais mis un peu de...
Oui, du rouge.
Ah bon, tu as vu?
Oui, j'ai remarqué.
Je suis contente. Et donc, le rapport avec le petit-fils, c'est comme si je dis mon petit-fils et mon mari, ça me permet d'évacuer toutes les souffrances que j'ai eues avec un mari ou des maris, avec des hommes. Quand je suis avec toi, tout ce qu'un homme m'a fait dans la vie, je l'ai oublié parce que je sais que toi, tu m'aimes. Je veux te demander, toi qui as vécu à Dakar, Gambie, Dubaï, Afrique du Sud, Bordeaux, Toulouse, enfin, tu as bourlingué. Est-ce que toi, aujourd'hui, qui viens d'avoir ta fille, est-ce que tu penses que ce que je t'ai dit sur les relations entre le père et l'enfant, la grand-mère et l'enfant, est-ce que tu penses que tu vas reproduire ça, toi?
Bon, c'est quelque chose que je pense, même, j'aurais aimé pouvoir reproduire. Mais tu sais... un peu comment j'ai vécu, même la notion du papa, c'est une notion qui est juste imaginative dans ma tête. Donc aujourd'hui, je me dis que je n'aurai pas la chance d'avoir ce grand-père qui dira que ça, c'est ma femme. Mais je peux dire derrière qu'aujourd'hui, si j'avais un fils, je suis sûr que Maïmouna, ma mère, prendrait l'enfant de ma main, comme elle le fait avec Maïna. Je pense que sur cet aspect-là, oui, mais sur l'aspect du papa, je ne l'aurais pas parce que j'ai vécu des années sans père. Je l'ai vu 2 ou 3 fois dans ma vie. Donc, je ne
peux... Oui, parce que voilà. Ta mère s'est séparée de lui il y a très longtemps. Tu as plus vécu avec ta mère qu'avec lui. C'est parce que tu ne le connais pas. C'est une question de familiarité. Mais il n'y a pas de la violence, il n'y a pas de conflit. C'est uniquement vous ne vivez plus ensemble et toi, tu étais parti dans autre chose. Mais cela ne t'empêche pas, comme la question que je t'ai demandée, est-ce que toi, tu peux continuer à transmettre, à faire valoir cette relation entre grands-parents vis-à-vis de petites filles ou de petits-fils? Déjà, tu es déjà amoureuse de ta fille, déjà.
Oui, ça, c'est sûr.
Donc, ta femme va être très jalouse.
Elle me l'a dit avant même qu'elle soit
Elle n'a que 15 jours. Attends un peu maintenant qu'elle va avoir 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans là. Donc, avant que ça n'arrive, dès qu'elle va avoir 2 ans, il faut qu'elle fasse un garçon. Si vous voulez que votre couple dure, sans tension, il faut tout de suite, je le recommande toujours aux dames, il faut toujours faire au minimum 2 enfants. Un garçon pour la maman et une fille pour le papa.
Que se passera-t-il si elle a une autre fille là? Donc je deviens...
Polygame.
Polygame.
Et moi, quand ta fille est née, vous m'avez envoyé la photo. Qu'est-ce que j'ai dit? On dirait que ma rivale là, elle est plus jolie que moi. Parce que comme moi, elle est ma rivale. Parce qu'elle m'a pris de toi. Donc... Tu vois, la relation de la grand-mère avec la petite fille n'est pas du tout la même, que vous faites connaître, vous aviez un garçon. Ça, c'est tout de suite mon petit mari.
Si c'était un garçon, je perds ma place.
Mais tu perds ta place parce que toi, tu en aimes une autre. Alors, comme ça, moi, j'ai tout de suite mon mari. Maintenant, alors que la fille, c'est ma co-épouse. Mais c'est profond, en fait. C'est-à-dire que c'est la relation idéale. Pour des adultes, des parents et des grands-parents, la relation idéale, c'est vraiment de génération en génération.
Après ce que tu viens de me dire, ça me ramène à te poser une autre question. Cette identité, tu l'as fabriquée, selon ce que tu m'as dit, selon ce que j'ai compris.
À travers, bien sûr, tous les processus. De conflits, de traumatismes, de rencontres, d'histoires, de tout, oui.
Donc, c'est une identité que tu as su déverser dans tes livres. C'est l'identité que tu transmets. Mais qui est vraiment Ken Bougoul, en fait?
Comment raconter à mon ami Nanou Samb que j'avais brusquement rencontré Jésus au milieu d'une rivière calme et fraîche, en compagnie d'une fille aux longs cheveux noirs, au cours d'une escapade solitaire dans cette Pologne mystérieuse et fascinante? J'aurais tant voulu faire comprendre à mon ami d'enfance que moi aussi j'avais connu autre chose. Mais cette autre chose, je ne l'avais pas partagée avec les miens. Il fallait aussi que je réserve aux miens une partie de ma vie, que nous en vivions ensemble ne serait-ce qu'une seule portion. C'était nécessaire si je voulais mourir chez moi. Extrait de Riwan ou le chemin de sable, qui répond en partie à la question de Modou. Qui est Ken Bougoul?
Oui, mais comme je n'ai pas fini d'exister, on ne peut pas savoir qui c'est, parce qu'on ne sait pas comment je vais finir. Hein. Avec moi, il faut faire très très attention. Hein. Parce que je t'ai dit, rien n'est acquis. Aujourd'hui, tu m'as vu comme ça, je ne sais pas comment demain tu vas me trouver.
Il peut y avoir des changements d'humeur.
Et comme en plus, pour moi, rien n'est acquis et que je ne me ferme à rien du tout, parce que j'en connais 15%, il me reste 85% ou 80% à découvrir, à connaître, à évaluer sur moi-même. Parce qu'il me reste encore plein de choses dans le backup, là, quelque part. Et bloqué parfois par des toutes petites questions, peut-être même de proximité ou de voisinage. Parfois, Yasmina, l'autre jour, je lui dis, j'en ai assez de la corruption au Sénégal. De l'impunité, de l'injustice et de l'indécence, de l'obscénité de nos corrompus, de notre justice, etc., que je sors, que je vais me mettre toute nue et je vais aller me mettre sur le rond-point du virage.
C'est sûr que ça aurait été choquant.
Maman, tu peux le faire, je sais que tu es capable de tout, mais comment tu vas quitter notre appartement pour arriver au virage. Parce qu'en face, nous avons Madame Mar, notre voisine, et il y a les gardiens en bas. Mais okay. Si je sors nue, elle dit donc de prendre un petit pagne, de l'attacher et d'aller jusqu'au virage, d'enlever le pagne. Donc ceci veut dire que si on en est encore là, que je me suis déshabillée toute nue dans ma chambre, mais que je n'ose pas sortir parce qu'il y a ma voisine, il y a les gardiens, et que je sois obligée de mettre un pagne pour, c'est que je n'ai pas encore fini de fabriquer cette individualité, cette identité. Il faut que j'aie le courage de ma chambre nue, parce que si je ne choque pas la proximité, comment je peux choquer ce qui est plus? Il faut déjà que ma voisine me dise pourquoi Marietto, tu te mets nue, et je vais lui expliquer. Et ce que tu disais dans les « je ne déverse rien dans les livres », c'est-à-dire que les livres me permettent dans l'évacuation d'exorciser, de faire de la thérapie. Et si j'ai le courage d'écrire certaines choses, dès que j'ai écrit ça, j'ai le courage de les assumer. Donc, je les assume et ça me permet d'aller plus loin.
Indépendance, tcha-tcha, Tozoumiye, Okipwaza, tcha-tcha, Toubakini, au table rond, tcha-tcha, Baganyeo, Onipanda, tcha-tcha, Tozoumiye, Indépendance, tcha-tcha, Tozoumiye, Okipwaza,
Calais pour couronner cette indépendance tcha-tcha, mais surtout indépendance d'esprit. Une recette de grand-mère signée Ken Bougoul, une romancière présence africaine, je le rappelle, et parfaitement paraphée par Modou Ndiaye, son petit-fils, pour notre série Esprit de famille dans En sol majeur, qui reprend ses quartiers habituels demain avec Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. Le trio vous espère autour de Josette Chiche-Portiche. À demain.